Mesdames et messieurs, chères clientes et clients, je vous souhaite à tous la bienvenue à cette conférence téléphonique. Je m'appelle Sandro Merino, je suis Chief Investment Officer à la Banque Claire. Avant de commencer mon exposé, j'aimerais vous préciser différentes choses. Les fichiers audio ainsi que la transcription de cette conférence téléphonique et de celles réalisées à l'avenir seront publiés sur le site internet de la Banque Claire, claire.ch, où vous trouverez par ailleurs des informations telles que les horaires d'ouverture actuels de nos succursales ainsi que les possibilités dont vous disposez pour contacter vos conseillers et conseillères par téléphone, par email ou désormais aussi par vidéo. N'hésitez pas à en parler directement avec eux. Aujourd'hui, j'aimerais surtout parler de l'évolution des marchés financiers et des répercussions économiques de la pandémie, y compris sur les mandats de gestion de fortune et solutions de placement proposées par la Banque Claire. En effet, mon équipe et moi-même assumons la responsabilité des stratégies de placement élaborées dans ce cadre. Je tiens tout d'abord à préciser que nous aussi gérons de fortune de la Banque Claire. Nous nous soucions avant tout de la santé de la population et exprimons toute notre compassion pour les victimes de cette épidémie. Nous avons le plus grand respect pour l'ensemble du personnel soignant et médical, ainsi que pour tous ceux qui donnent de leur personne avec courage dans le but de soulager les souffrances de leurs concitoyens. Par ailleurs, je suis fier que la Banque Claire participe elle aussi au programme de soutien national en accordant des crédits aux petites et moyennes entreprises. À l'échelle du pays, le volume de crédits, dont la plupart portent sur un montant inférieur à 500 000 francs, ce montant d'or est déjà à 16 milliards de francs. Depuis notre conférence téléphonique du 9 avril, le nombre de personnes infectées a dépassé les 2 millions à l'échelle mondiale. Les États-Unis constituent l'épicentre de la pandémie depuis 2 semaines. De premières mesures d'assouplissement des restrictions devraient être prises par les différents gouvernements européens au cours des jours et semaines à venir. Je vais faire maintenant un tour d'horizon pour discuter un peu la situation au niveau de tous les pays plus importants. Je commence par la Suisse. En Suisse, le Conseil fédéral a présenté aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, sa stratégie de normalisation de la situation. Comme vous avez probablement déjà entendu, le Conseil fédéral propose 3 étapes pour cette première phase d'assouplissement. Il y a 3 dates qui ont été communiquées. Le 26 avril, où est prévue l'ouverture des services personnels comme les coiffeurs ou les salons cosmétiques, mais aussi les magasins de bricolage, les jardinières, les pépinières et les fleuristes. Les installations publiques en libre service, telles que les stations de lavage pour les voitures, pourront aussi être remises en fonction. Enfin, à partir du 27 avril, les magasins d'alimentation qui proposent d'autres marchandises en plus des biens de consommation courante pourront ouvrir toute leur surface de vente. À partir du 11 mai, le Conseil fédéral prévoit de rouvrir les écoles obligatoires, les autres magasins et les marchés. Le Conseil fédéral entend prendre une décision à ce sujet le 29 avril. Le 8 juin, dans la troisième phase prévue à partir du 8 juin, ce sont les écoles professionnelles et du secondaire ainsi que les hautes écoles qui devraient rouvrir leurs portes. Aussi les établissements de divertissement et des loisirs tels que musées, bibliothèques, jardins botaniques et zoos vont rouvrir. Le Conseil fédéral doit se prononcer sur les détails de cette troisième étape le 27 mai prochain, après une évaluation de la situation basée sur les données obtenues. Voilà, ce sont les nouvelles, disons, je trouve bonnes pour la Suisse aujourd'hui. Naturellement, tout ça reste très dépendant de l'évolution des infections. Il est nécessaire pour mettre en place cette stratégie, que les chiffres des infections restent basses et stables, qui ne commencent pas à remonter lorsqu'on commence à mettre en œuvre les assouplissements qui ont été proposées aujourd'hui par le Conseil fédéral. Voilà, je laisse la Suisse, je passe maintenant à un tour d'horizon comme annoncé. Je pars maintenant de la Chine et du reste de l'Asie. Les pays asiatiques tels que la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou Taïwan sont pour l'instant parvenus à prévenir une nouvelle hausse du nombre d'infections. En d'autres termes, une seconde vague. Est-ce malgré un net assouplissement des mesures de quarantaine? Ensemble, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon totalisent moins de 500 décès dus au coronavirus. Même des États plus faibles économiquement en Asie, comme les Philippines, enregistrent un nombre de décès bien moins élevé que les pays européens dont la taille de la population est similaire. Il s'élève pour les Philippines en effet à 350 décès, alors que le pays compte une centaine de millions d'habitants, soit un peu moins que l'Italie et l'Espagne réunies. On ne peut pas toutefois parallèlement comparer les chiffres officiels présentés par les différents États, même si l'on ne doit pas tirer des conclusions hâtives. Il est clair que les enseignements scientifiques concernant cette pandémie devraient eux aussi permettre de mieux comprendre comment protéger de façon optimale la population. En Asie, la lutte contre l'épidémie semble pour l'instant être très efficace, même s'il subsiste des doutes quant aux chiffres officiels, notamment ceux de la Chine. La normalisation de l'économie semble se poursuivre dans une grande partie du continent. Je passe maintenant à la situation en Europe. Ailleurs en Europe, l'Autriche et le Danemark engagent dès cette semaine une nouvelle phase consistant à réactiver une partie de l'économie. Ainsi, les crèches et écoles danoises ont d'ores et déjà rouvert leurs portes. En Allemagne et en Italie, il faudra attendre au moins début mai avant que telles mesures ne soient appliquées. La Suède et les Pays-Bas, deux États qui ont longuement hésité avant d'ordonner des mesures de quarantaine strictes, enregistrent pour leur part une forte hausse du nombre des décès. À ce jour, on compte largement plus de 3 000 décès au sein de la population néerlandaise, soit autant que dans toute l'Allemagne. En France et en Grande-Bretagne, un confinement strict devra encore être observé pendant un certain temps, car le nombre de nouveaux cas reste élevé et ne recule que lentement. Lundi dernier, le président français Emmanuel Macron a prolongé ces mesures jusqu'au 11 mai. On constate donc d'importantes disparités en Europe. Et il faudra probablement attendre fin mai pour que la situation s'améliore significativement sur tout le continent. Par conséquent, le trafic transfrontalier et aérien devrait rester encore un certain temps soumis à des restrictions strictes. Ça vaut pour l'Europe en tout cas. Maintenant, je passe aux États-Unis. Aux États-Unis, plus de 600 000 citoyens ont à ce jour été testés positifs au coronavirus et plus de 26 000 en sont décédés de suite d'une affection pulmonaire. Seulement dans les dernières 24 heures, il y a eu presque 2 500 décès aux États-Unis. On s'attend à ce que début mai, le nombre de personnes infectées dépasse la barre du million aux États-Unis seulement, et que celui des décès avoisine les 40 000 ou plus. Les critiques formulées par les gouverneurs des différents États fédéraux américains à l'encontre de la gestion de la crise par Donald Trump se font de plus en plus virulentes. Au moins 9 d'entre eux, dont ceux de New York, de la Californie et de la Pennsylvanie, ont annoncé qu'ils ne mettraient pas en œuvre les mesures d'assouplissement annoncées par le président américain, que si aucune menace pour la santé publique n'était plus à craindre. À l'heure actuelle, le pays enregistre encore chaque jour plus de 2 000 décès liés au virus. L'état actuel de l'épidémie aux États-Unis est comparable à la situation dans laquelle se trouvait l'Italie il y a un mois, lorsque le nombre de décès avait enfin atteint un pic. Il est donc peu probable que des mesures responsables de normalisation de la situation soient prises avant début juin, même si cela va à l'encontre des dernières affirmations irréalistes du président américain. À l'échelle mondiale, globale, la pandémie se trouve probablement à son paroxysme. Il y a toutefois des raisons d'espérer un retour à la normale dans la plupart des régions du globe d'ici à mi-juin. Après l'Asie, l'Europe devra elle aussi prendre progressivement et de façon réfléchie des mesures en ce sens. Voilà, ça c'est un peu notre tour d'horizon sur la situation dans le monde pour ce qui concerne la diffusion du virus. Maintenant, je passe aux pertes sur les marchés des actions, la situation et aussi je parle des devises tout brièvement. Les marchés des actions ont peu évolué depuis notre dernière conférence téléphonique, il y a tout juste une semaine. À l'échelle mondiale, ils ont gagné entre 1 et 6% en avril. Le marché suisse n'a pour l'instant que peu progressé depuis le début du mois, comparativement à celui des États-Unis et des pays émergents. Mais naturellement, le marché suisse a aussi perdu moins dans le mois de mars. À ce jour, l'indice suisse des actions SMI a chuté d'environ 11% depuis le début de l'année. Dans le même temps, le marché américain des actions a reculé de 14 à 18%, celui de l'ensemble de l'Europe de 24% et celui de la Chine de 7%. La situation sur les marchés financiers s'est donc très légèrement améliorée par rapport à la semaine dernière. Depuis notre dernière conférence téléphonique, le franc est resté globalement stable par rapport à l'euro et au dollar américain. Donc il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pour les devises, en particulier pour le franc suisse. Maintenant, je veux faire une première analyse ou un tour d'horizon sur les répercussions sur l'économie. Faire un commentaire sur les premières pronostics pour l'évolution de l'économie. La semaine dernière, le 9 avril, je vous ai présenté les probables conséquences de la récession économique sur l'endettement des États et le chômage. Vous avez pu constater que les répercussions seront très variables selon les pays, y compris au sein de l'Europe. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des perspectives de croissance pour cette année et l'année prochaine et réaliser une première évaluation de la situation sur la base des prévisions formulées mardi dernier par le Fonds monétaire international. Ce sont des prévisions quand même qui sont beaucoup suivies. Au vu de la situation actuelle, il n'est guère surprenant que celui-ci s'attende à des répercussions sur la performance économique mondiale bien plus graves que celles de la crise financière de 2008-2009. D'après le Fonds monétaire international, la performance économique réelle, c'est-à-dire le PIB mondial, qui se calcule de façon approximative en additionnant le revenu national brut des différents pays, il diminuera de 3% cette année, avant de reprendre des couleurs en 2021 avec une hausse de 5,8%. Ce sont les prévisions au niveau global du FMI, du Fonds monétaire international. Avant l'éclatement de la crise, on tablait sur une croissance d'environ 3% pour cette année et aussi pour l'année prochaine. Si on se base sur une performance économique mondiale d'environ 90 000 milliards de dollars en 2019. Donc, les répercussions économiques, le coût de la pandémie devrait se monter à quelque 9 000 milliards sur 2 ans, ce qui est un peu plus que la performance économique de l'Allemagne et du Japon dans l'année 2019. Donc, il y a le coût global de cette crise. Assumons que ça termine à la fin de l'année prochaine, prochaine de 9 000 milliards de dollars. C'est une estimation macroéconomique à échelle globale. Par conséquent, même en l'absence de mesures de soutien étatique représentant plusieurs milliers de milliards, on n'aurait pas pu éviter une crise économique mondiale ayant de graves conséquences sociales. Le Fonds monétaire international a formulé des prévisions également pour la Suisse. La récession se traduira par une contraction d'environ 5% du PIB réel pour cette année, puis une hausse de quelques 4% l'année prochaine. La Suisse serait donc légèrement moins impactée que ses voisins européens. D'après ces chiffres, le coût de la pandémie pour notre pays avoisinera toutefois les 70-70 milliards de francs. 70 milliards de francs. D'autres fonds devraient donc être débloqués par la Confédération afin d'atténuer les répercussions de la récession. Je pense que à présent, nous sommes, du point de vue de la Confédération, à des fonds de presque 40, à peu près 40 milliards de francs. Donc, on estime que pour la Suisse, probablement, ça sera toujours plus, pas 40, mais peut-être 70 ou 80 milliards de francs. C'est une, disons, estimation alternative. Du coup, de cette pandémie d'un point de vue macroéconomique. Selon le Fonds monétaire international, les autres pays industrialisés, européens ainsi que les États-Unis doivent s'attendre à une baisse de leur performance économique de l'ordre de 5 à 9% pour cette année. L'Inde et la Chine figurent parmi les rares nations qui devraient connaître une croissance positive, respectivement de 1,9 et de 1,2% en 2020, de cette année. Après la crise bancaire et la crise financière mondiale qui s'est ensuivie en 2008 et 2009, l'économie mondiale, dans son ensemble, n'a pas enregistré de récession, mais seulement une stagnation. Il faut remonter aux années 1930, pendant la Grande Dépression, pour observer un recul annuel de l'économie plus important encore. C'était 10% dans une seule année au niveau global dans la Grande Dépression. Donc nous sommes avec, disons, cette récession causée par le coronavirus dans une échelle qui est plus grave de la crise bancaire et financière mondiale qui a eu lieu il y a 12 ans, mais quand même loin de la crise de la Grande Dépression du siècle passé. Compte tenu de ces évolutions, le Fonds monétaire international propose lui aussi des facilités de crédit de montant de 1 000 milliards de dollars afin de soutenir avant tout les pays les plus vulnérables. Ça peut devenir une autre situation critique pour l'économie globale s'il y aura des pays plus faibles qui auront des difficultés à rester solvents lorsque la crise avance. Voilà. Après ce tour d'horizon, disons, macroéconomique, qui, disons, c'est la première estimation d'une grande organisation globale comme le Fonds monétaire international, qui donne des chiffres, disons, réalistes à partir de ce qu'on peut savoir dans ce moment sur les effets et la gravité de la récession. Et c'est clair que la réaction de tous les États et des banques centrales est juste et nécessaire pour éviter, disons, des situations sociales et économiques beaucoup plus graves. Pour nos stratégies de placement, les corrections intervenues sur les marchés mondiaux des actions ont également eu des répercussions sur nos stratégies de placement. Encore une fois, je vais vous donner les chiffres des pertes indicatives pour les stratégies les plus importantes, avec des chiffres qui sont, disons, jusqu'à hier, le 15 avril. Donc, pour les trois stratégies les plus fréquentes, la stratégie de rendement, on est à peu près à moins 4,5%. La stratégie équilibrée est à peu près moins 7, moins 7,5%. Et la stratégie de croissance est à moins 10, moins 10,5%. Ce sont, disons, les pertes indicatives à partir du début de l'année. La situation s'est une nouvelle fois légèrement améliorée depuis notre dernière conférence téléphonique du 9 avril, mais il n'y a pas un très grand changement. Les différences de rendement entre les stratégies de placement classiques et durables restent faibles, comme nous l'avions prévu. Pour obtenir des informations plus précises concernant votre dépôt personnel, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller ou conseillère. Voilà, j'ai notre équipe ces derniers jours. Nous avons procédé à un screening systématique du marché suisse des actions et nous avons établi en collaboration avec nos analystes une liste des actions d'entreprise suisse que nous recommandons. Ce sont 11 titres et les résultats de cette étude sont à votre disposition depuis mardi. N'hésitez donc pas à demander à votre conseiller ou à votre conseillère de vous les transmettre. Je ne vais pas avoir le temps de entrer dans les détails de cette étude, mais c'est une, disons, une étude qui a un côté quantitatif, screening, en élaborant beaucoup de données sur les entreprises que nous couvrons avec recherche, et aussi une deuxième analyse qualitative, où il y a un peu des éléments qualitatifs qui entrent, et nous avons pratiquement fait une extraction de 11 titres à partir de la totalité du marché suisse des actions. C'est ça un peu le résultat de cette étude que vous pouvez demander à votre conseiller ou conseillère. Voilà, je passe déjà aux conclusions. Même si la situation reste dramatique dans certains pays, une reprise économique au second semestre semble toujours réaliste. J'espère donc pouvoir vous communiquer la semaine prochaine des informations encore plus concrètes, notamment au sujet de la nouvelle normalité qui devra être instaurée à l'issue des mesures de confinement qui deviennent de plus en plus explicites et plus claires. C'est naturellement aussi nécessaire que les chiffres des infections et l'évolution de la pandémie restent, disons, dans les limites, qu'on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague, une nouvelle croissance exponentielle, qu'il soit possible de limiter, malgré les assouplissements, la croissance de l'épidémie. C'est ça une inconnue importante, un risque qui reste et qui peut naturellement compromettre l'évolution des marchés financiers. Donc il faudra observer attentivement les données, les dates et essayer de prévenir les marchés en changeant la stratégie si nécessaire. Donc nous sommes dans des semaines très décisives et nous restons très attentifs à suivre les évolutions. Je maintenant vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que mes explications vous auront été utiles et comme indiqué tout à l'heure, vous avez à présent la possibilité de me poser directement vos questions. Merci bien, mesdames et messieurs.